Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVR. S'aperçoit qu'il lui manque un livre. Soupir. Allons chercher à la bibliothèque. Elle est sortie de sa chambre, allongée un couloir, descendue en bas, est allée à la bibliothèque. C'est une grande pièce sombre, avec les quatre murs, sur les quatre murs des rayonnages de libre jusqu'au plafond. Pour accéder au livre du haut, il y a des escaliers qui mènent à une passerelle en bois avec rampe qui fait le tour de la pièce. Il y a aussi un bureau et quatre fauteuils. Adrienne monte les escaliers en bois, suit la passerelle. Elle prend un livre. L'ouvre, et là, une lettre tombe. Elle la ramasse. Elle est adressée à Mathilde. Elle hausse ses épaules et s'apprête à la remettre dans le coin où il était. Près du livre. Mais l'écriture lui rappelle étrangement celui de son père. Elle le regarde bien. Il n'y a que lui qui peut avoir fait un si joli M majuscule. Son père lui écrivait souvent lorsqu'il était en voyage. Elle reconnaît tout de suite son écriture sous son enveloppe. Ce ne peut être que lui. La curiosité est quelque chose qui vient de son père, tant aimé et mort. Et ce trouble, cette peine qui lui rappelle ses jours heureux avec lui, tant pis. Elle ouvre l'enveloppe. De toute façon, c'est qu'une lettre d'une personne à une personne de la même famille. Alors, tremblante, elle a ouvert l'enveloppe. Elle lit cette écriture qui, pour la première fois, ne lui parle pas à elle, mais à une autre. C'est comme si elle écoutait ou épiait son père. Elle en est rouge de honte. Mais elle lit. Ma chérie, mon amour, j'ai hâte de te savoir libre. Oui, enfin libre. Toi, si belle, si jeune, être à la merci de ce vieillard, de cet homme qui a tous les droits sur toi, même celui de te toucher. Je prie Dieu de l'amour pour que tu aies le courage d'agir, de faire ce que nous avions décidé. Surtout, fais-le sans remords, car c'est presque de la légitime défense. Et puis, le médecin m'a promis que l'effet serait immédiat et sans douleur. Une mort que beaucoup de gens souhaiteraient en avoir. Pour ma femme, je te supplie de croire que c'était une fin très douce. N'oublie pas, c'est qu'une fois que la chose est faite, de ne pas chercher à avoir des rapports particuliers avec moi. Reste digne et fais ce que tu dois faire, ce que doit faire une veuve sans crainte. Personne ne saura rien. Le poison ne laisse aucune trace. Après un long moment, je t'appellerai. Nous pourrons nous revoir et plus tard nous marier. Je t'aime, mon amour. Notre avenir est entre tes mains. Courage. Je veux que tu le fasses. Je serai, sans que tu le voyes, près de toi. Nous allons être heureux et riches. Tu verras. Ton amour. P.S. Ne te fais pas de soucis. Pour la petite Adrienne, cette douce enfant ira en pensionnat chez les religieuses vers son éducation. Et tu ne la reverras que très peu. Détruite cette lettre compromettante. Après avoir lu, dans la honte, la colère, les larmes, il ne sait plus où elle en est. Voix trouble. Il vient d'apprendre que son père a aidé Mathilde à tuer son mari. Parce qu'il s'aimait. Et quitté à tuer sa mère. Elle se dit que la mort de son père, mort subite un matin, on l'a trouvé sans connaissance dans son lit, et peut-être dû à Mathilde qui aurait donné ce fameux poison. Elle voulait peut-être se débarrasser d'un amant encombrant qui savait beaucoup trop de choses. Elle est furieuse. Dire que j'ai passé toute ma vie avec des monstres que j'ai aimés. Elle met la lettre dans sa poche, un poche de sa robe. Remet le livre en place, on ne sait jamais. Et elle descend les escaliers pour sortir de la bibliothèque. Elle décide de faire comme si rien n'était vis-à-vis de Mathilde. Si elle savait que je sais, elle me tuerait, elle aussi. Elle a peut-être encore de ce poison. Elle déteste Mathilde, mais son père, cela lui fait trop mal. L'homme qu'elle estimait le plus au monde. Un assassin, amoureux d'une sorcière, mente religieuse. Quelle déception. Et en plus, n'avait qu'un désir. La voir partir, s'éloigner, la mettre en pension pour que sa maîtresse, elle s'en libre. Le jeudi suivant, lorsqu'elle attend Charles-André à la Madeleine, elle décide de tout lui dire. Dès qu'il est près d'elle, elle lui dit « J'ai quelque chose de très grave à te dire. Allons dans un endroit tranquille. Bien, comme tu voudras. Je t'invite au restaurant. Nous prendrons une cabine particulière. Viens. »
plus que voulez-vous. La vie est ainsi faite. Les philosophes pensent toujours à la mort et les jolies femmes à l'amour.
En somme, si je comprends bien, tous ces temps que vous êtes, des philosophes.
Il a amené Place de l'Étoile dans un restaurant très huppé qui a des étages, qui a aux étages des cabines particulières pour souper ou déjeuner fin. La plupart des gens qui vont dans ces cabinets, c'est pour y être tranquille avec des maîtresses. Le restaurant est très cousu, guindé. Il y a des boiseries au mur, quelques plantes vertes. Les clients y parlent bas. Montent dans un cabinet particulier par un escalier. Un escalier de bois. Il y a un long couloir où a été... De chaque côté des portes se trouve une petite table avec le couvert. Le maître d'hôtel leur a ouvert la porte et les a fait entrer. C'est une pièce de taille moyenne, avec un divan, une table, quatre chaises et un buffet bas. Lumière tamisée et double rideau sur eux que l'on peut tirer si on ne veut pas être vu du boulevard. Jean-André lui demande « Cela te convient ?»« Oui, merci. » Ils ont laissé leurs vêtements au vestiaire. Les maîtres d'hôtel les aident à s'asseoir à table.
Puis sort et reviennent avec des serveurs pour mettre la nappe à la table, pour la table. Les fleurs, le couvert, commander le menu, les vins. Et ensuite, ils les ont laissés seuls.
Les prix sont bien entendu extrêmement chers. Après qu'ils aient commandé, Charles-André lui demande « Veux-tu me dire maintenant ce qui t'est arrivé ?» Elle lui dit « Une chose horrible. J'ai appris par hasard, si tu savais, mon père. » L'homme que j'aimais le plus au monde. Je suis malheureuse. Il faut absolument que tu le saches. J'ai besoin de le dire à quelqu'un. Entrez.
C'est le serveur qui apporte sur un chariot
le repas. Une fois qu'ils aient servi, pour ne pas être dérangés, Charles-André leur dit « Nous servirons nous-mêmes. » Une fois qu'ils sont partis, Adrienne sort de sa poche la lettre. « Tiens, Lila, je ne peux pas te la lire. » Elle lui dit, tu comprends? J'ai appris tout ça et je suis sûr qu'elle l'a tué. Qu'elle a tué mon père parce que lui aussi est mort d'une mort violente. Il est surpris. Il a des difficultés à reprendre ses esprits, à remettre ses esprits en place. Il se dit que ce n'est pas possible une histoire pareille. On ne va pas. Tout de même, on ne fait pas des choses pareilles dans la vie. C'est que dans les romans que l'on voit ça. Elle lui demande, « Que dois-je faire ? La dénoncer à la police ?» Il lui dit, « Réfléchissons avant de prendre une décision. » Oh oui, oh oui, oui, je t'en supplie, aide-moi à sortir de tout ça. Mon père, mon pauvre père, moi qui l'aimais tant, lui ne pensait qu'à m'éloigner. Je n'ai plus envie de rien, seulement de cette femme. Partir, il lui dit, calme-toi, nous partirons. Pas comme ça, elle nous ferait rechercher. Par la police, tu es mineur, on ne pourra plus se revoir. Elle lui répond, mais on la dénoncerait. Il lui dit, ça ne changerait rien. Tu irais dans une maison jusqu'à ta majorité, et elle en prison. Il faut que l'on se marie avec son consentement, et que tu aies ta part d'héritage. Elle lui dit, oui, mais comment faire? Oh mon Dieu, je ne veux pas rester avec cette criminelle. Mon père, il lui dit, calme-toi, nous réfléchirons et surtout ne lui montre pas que tu sais quelque chose. Je peux garder la lettre? Oui. Maintenant, essayons de manger. Puis, chacun restait sans parler, mais chacun y a pensé. Ils s'en sont retournés. Avant de se quitter, il lui a dit, tiens-moi au courant, et si tu as des ennuis, préviens-moi. Je suis près de toi. Elle a l'impression d'entendre son père parler à Mathilde. Et il continue, je vais réfléchir. Aie confiance. Pendant ce temps, Apolline est retournée voir Michel et lui a donné l'argent. Elles sont allées voir le patron du café pour prendre rendez-vous pour aller chez le notaire. Et, une semaine plus tard, elles ont leur café. Paul a bien spécifié que la propriété était à Apolline puisque c'était elle qui payait. Mais le bénéfice de l'affaire allait aux deux. Maintenant, il va falloir nettoyer tout ça et travailler. Michel s'est transformé en chef de chantier. Elles ont vidé les vieux mobiliers, repeint les murs, fait une mini-estrade avec du bois de charpente, acheté des chaises et des tables. Pendant un mois, elles ont travaillé comme des folles. Apolline, qui n'a jamais travaillé de ses mains, même pour les travaux de couture, si on le lui avait demandé dans sa famille, elle aurait refusé. Mais là, c'est autre chose. C'est pour elle, personnellement, et c'est pour sa carrière d'artiste. C'est pour de l'art, ce qu'elle fait. Repeindre une vieille baraque, faire de la menuiserie, de la maçonnerie. C'est pour s'exprimer. Elle est un peu comme le sculpteur qui met la main dans la glaise, qui taille la pierre. Si on demandait au sculpteur de faire la même chose, mais sur un chantier, il aurait refusé avec dédain. Ensuite, Michel lui apprend à chanter sur scène. Elle lui dit « Monte sur scène. Non, d'une façon décidée, sûre de toi, avec des pas qui ont du poids. Mets-toi au milieu, là, voilà, jambes écartées, les mains sur les hanches, le regard froid. Regarde plus haut que le public. Attends qu'il ait fini de beugler et tu commences à chanter. N'oublie pas, chante d'une façon énergique. Tu es là pour réveiller le peuple. » Et toutes les soirs, elle lui donne des chansons à apprendre et à interpréter. La plupart du temps, elle répète chez Michel. Après une heure où Michel lui a crié après pour lui dire qu'elle était nulle, vraiment nulle, nulle, minable, la Pauline blanche flanche et pleure. « Je n'y arriverai jamais !» Michel s'approche d'elle, la prend dans ses bras. « Je te dis tout ça, c'est pour ton bien, tu comprends ? Les spectateurs sont très durs et vont tout faire pour te déséquilibrer. » Pauline lui dit, « Je ne suis pas une chanteuse, prends quelqu'un d'autre. » Michel lui dit, « Pour ce genre de chanson, il ne faut pas une vraie chanteuse. Il faut une personne qui ait du caractère et qui crie la misère du monde. Une chanteuse, c'est trop mélodieux. » Elle l'embrasse sur la joue. Elle lui dit, « T'es trop fatigué, tu as trop travaillé. Viens t'allonger. » Puis se penche vers elle, lui donne un baiser sur la joue et lui caresse la joue. « Tu es toute brûlante. » Elle lui caresse le cou. « Je vais te dégrafer ta robe, comme ça tu respireras mieux. » Pauline se laisse faire. Elle lui découvre ses dessous. « Tu as l'air d'une belle petite, tu sais. » Tu as l'air d'avoir une jolie poitrine, tu sais. Elle sort. De jolis seins, bien fermes et blancs. Elle les caresse du bout des doigts. Pauline ne bouge toujours pas. Elle se sent un peu gênée. Ses doigts sur ses seins, ça fait un drôle d'effet. Oui, ils sont bien fermes. Elle est sous pèse. Pauline est rouge de honte. Il regarde le plafond. Michel descend une main le long de son corps vers la taille, puis saute la taille pour se trouver en haut des cuisses. Là, par-dessus la robe, elle les caresse, ou plutôt les plotte, pendant que l'autre main est sur son sein. Quel malasque! C'en est trop. Cette main sur le haut des cuisses, vous avez les mains froides. » Cette voix surprend Michel et coupe l'inoptisation qu'elle avait sur ce corps de belle jeune fille. Elle revient à la réalité. Elle lâche le sein qui de toute façon était resté mou et la cuisse. Pauline est toute rouge. Elle lui dit, « Je vais me lever. Il se fait tard. » Elle se soulève et se rhabille. Michel, honteuse, se redresse. « Bon, eh bien, je te laisse. » Michel lui dit, « Tu t'en vas ? » ?»« Oui, il est déjà tard. » Michel va vers la table pour prendre les chansons des partitions qu'elle apprend pour les lui tendre. « Tiens, prends-les pour apprendre. » »« Non, pas la peine. Je serai incapable d'apprendre toute seule. » »« Et puis, j'aurai trop honte devant mon frère. » Elle se dirige vers la sortie. Michel va la rejoindre et lui dit, « Attends, je vais t'accompagner. » « Non, pas la peine, je prends un fiacre. » C'est plus vite fait. Et puis les gens du quartier commencent à me connaître. On ne me fera pas de mal. Je suis d'aider pour eux. Bon, alors au revoir. Michel est dans tous ses états. Elle regrette de s'être comportée comme ça. Elle ne reviendra sûrement pas. Elle va à la fenêtre la voir partir. Elle la voit qui longe la petite rue. Mon Dieu, j'ai fait une grosse erreur. Si elle ne venait plus. Nous sommes ni embrassés, ni tendu la main lorsqu'elle est partie. Elle a dû comprendre ce que j'étais et va vouloir arrêter l'affaire. Et je vais me retrouver sans un sou dans cette cabane. Mon Dieu, faites à ce qu'elle revienne. Est-ce que tout se passe comme avant? Apolline pense à ce que lui a fait Michel. C'est la première fois qu'une autre personne que Jules la touche. Et en plus, c'est une femme. Une femme moche, vieille, qui ressemble plus à un homme qu'à une femme. Elle se dit que c'est normal, vu ce qu'elle fait. Arrivée chez elle, elle va directement à sa chambre. Se déshabille jusqu'à la ceinture et se nettoie les seins à l'eau de Cologne. On ne sait jamais. Elle ne doit pas se laver souvent les mains. En tout cas, elle a du goût. C'est vrai que j'ai de jolis seins. Je préfère garder mon intimité pour les hommes. Quelle vieille chèvre, tout de même. Elle a eu un sacré culot de me faire ça. Puis elle se rhabille, se coiffe, va dans sa chambre. Va de sa chambre. Elle retrouve Charles-André au salon. S'assoit sur le canapé et lui demande « Tu as écrit aujourd'hui ?»« Non, j'ai autre chose en tête. » Elle lui dit « Adrienne, cette fille va être notre ruine. Tu ferais mieux de te marier avec Mathilde. » Il lui répond « Surtout pas. Pourquoi ?»« Parce que cette femme est dangereuse. » Apolline hausse les épaules et lui dit « Mathilde, dangereuse, c'est plutôt toi, la pauvre. » est amoureuse et sans défense. Ne crois pas ça, elle lui dit. Oui, je sais, elle va t'empêcher de voir Adrienne. Mais c'est de bonne guerre, non? Il demande de changer de conversation. Et toi, qu'as-tu fait? Si tu savais ce que j'ai fait, tu ne le croirais pas. Depuis qu'Adrienne sait sur Mathilde des choses, elle la voit autrement. C'est devenu une femme redoutable, qui l'épie et cherche à la séquestrer ou la tuer. Tout ce qu'elle dit ou fait a un double sens et devient menaçant. Pourtant Mathilde, qui ne sait rien de sa découverte, se comporte comme à l'accoutumée avec elle. Pendant le dîner, qu'elle prenne en silence, car Adrienne a peur de parler, et cette maison, ces pièces qui lui semblaient si jolies, familières, dignes d'une femme de goût, devient pour elle quelque chose de sinistre. Elle a l'impression que les maisons l'enferment, l'encerclent, que chaque coin devient quelque chose de lugubre. Qu'as-tu, Adrienne? Tu restes sans manger? comme ça, les yeux fixes. Cette voix l'a fait sursauter. Rien, madame. Madame, Mathilde, excusez-moi. Tu vas bien? Je te trouve un peu pâle. Tu as des ennuis? Non, pas du tout. Bien, alors mange. Rien mange sur le bout des lèvres. Après le repas, elles vont toutes deux au salon. Mathilde se met au piano et joue. Le piano se trouve sur le côté de la cheminée. Et les flammes vont danser. Les flammes donnent de grandes ombres de la femme et de son instrument, des ombres qui bougent tout le temps. La petite est habillée de noir, elle a de longues mains blanches, et sa musique triste et mélancolique rend encore plus lugubre le tableau. Demi-heure plus tard, Adrienne se lève, prise de vertige. Je vais me coucher. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir, ma petite. Une heure plus tard, Adrienne est dans son lit, essaye de dormir. Elle pense constamment à ce qu'elle a lu. Mathilde et son père sont des criminels. Son père a tué sa mère pour vivre avec Mathilde. Et elle, elle a tué son père pour être libre. C'est un véritable cauchemar. Un véritable cauchemar. On a frappé à la porte. Ce qui l'a fait sursauter. C'est moi, Mathilde. Je peux entrer? Après une seconde d'hésitation, ne sachant que faire. Oui. Mathilde est entrée avec un bol fumant. Elle s'approche du lit. Je t'ai apporté une tisane pour te détendre. Mais je n'ai pas. Si ça te fera du bien, soulève-toi. Elle se soulève. Mathilde se penche pour la faire boire. Elle n'a pas éclairé la pièce. Seul le reflet de la lune éclaire la pièce et creuse le visage de Mathilde, qui le rend plus lugubre. Elle met le bord du bol contre les lèvres d'Adrienne, qui les ouvre pour boire. Elle a l'impression de boire le bouillon de 11 heures. Une fois qu'elle a eu bu, Mathilde se soulève et lui dit « Maintenant tu vas pouvoir dormir, te détendre. » Elle lui donne un baiser sur le front. « Bonne nuit, ma petite. Tu es toute brûlante. » Et elle sort de la pièce. Et Adrienne, un quart d'heure plus tard, s'endort. Le lendemain, elle se réveille détendue. Il fait grand jour, ce qui lui dit qu'elle a dû dormir un long moment. Elle s'étire de bonne humeur. Mais très vite, quelque chose la chiffonne. Elle se souvient. Sa gorge se serre. Elle va à ses cours comme d'habitude, mais sans entrain. Après ses cours, elle aimerait voir Charles-André. pour être près de lui. Elle décide d'aller chez lui. C'est sa sœur qui a ouvert. « Bonjour, vous désirez ?» Elles sont surprises toutes deux. « Je vais parler à Charles André. » Apolline lui dit sèchement. « Il est absent. » Adrienne déçue. « Ah ? Oui, mais si vous pouvez l'attendre. Entrez. » Apolline veut rester polie pour ne pas mettre en colère son frère. Adrienne entre. Apolline ferme la porte. C'est la première fois qu'elle vient chez Charles André. Elle regarde bien son chez-lui. Apolline la fait rentrer au salon.
Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci.
Vous voulez boire quelque chose ? Adrienne a la bouche sèche. À cause de l'émotion, elle dit « Oui, je veux bien, quelque chose de rafraîchissant. » Apolline lui dit « Du jus de pomme alors ? Ça fait un peu campagne, mais c'est très rafraîchissant et c'est bon pour le teint. Alors je veux bien. Excusez-moi, j'ai pas de domestique pour le moment. Je vais vous chercher la boisson. » Adrienne sourit et Apolline sort de la pièce. Adrienne regarde bien autour d'elle et se dit que c'est du mobilier d'appartement meublé.
Apolline revient avec une bouteille et deux verres qu'elle pose sur la table et sert.
Et s'assoit en face d'Adrienne. Elle lui demande après avoir bu. Vous voyez souvent mon frère, je crois. Oui, un peu. Et comment va Mathilde ? Très bien. Et vous, que devenez-vous ? Moi, j'ouvre un café chantant à Montmartre. Adrienne est surprise. Montmartre, ce quartier populaire ? Apolline est rouge, lui dit. C'est juste pour me lancer. De toute façon, dès que mon frère est lancé et marié, j'arrêterai. Je trouve que Mathilde et lui font un très beau couple. D'ailleurs, tout le monde le dit. On les voit constamment en Boulogne. Adrienne soupire et ne dit rien. Pendant quelque temps, elle s'était distraite. Puis les démons reviennent. Elle se lève et dit « Je dois vous quitter. Mais vous n'attendez pas mon frère ?»« Non, je n'ai plus le temps. » Apolline se lève et lui dit « Vous êtes venu pour quelque chose ? Vous êtes venu pour quelque chose ? Pour quelque chose ? Adrienne ne se sent pas bien, la fatigue. Les émotions. Elle voit tout tourner. Elle voit tout tourner, n'entend plus, tombe comme un pantin, et c'est le noir. Lorsqu'elle se réveille, elle est dans son lit couché. Elle entend à côté d'elle Mathilde dire « Elle était très nerveuse, docteur. Je lui ai donné... Vous savez la tisane que vous avez prescrite à mon mari des derniers temps ? » Le médecin lui dit « J'ai touché son pouls. Il est très faible. Faiblesse générale, nervosité. Continuez à lui donner cette tisane chaque jour et ses pilules. Je suis sûr que vous allez très bien vous en occuper, comme vous avez fait avec votre mari. Vous me payerez à la fin, lorsque les comprimés auront fait effet. Bien, au revoir, madame. une porte qui a claqué, des pas. Des objets que l'on touche, des pas. Ce doit être Mathilde. Oui, ce doit être Mathilde dans la chambre. Adrienne, se sont défaillir. Pendant ce temps, Charles-André est au salon avec sa sœur qui lui parle des malheurs d'Adrienne et de ses malaises. Elle ne t'a pas dit pourquoi elle est venue? Malheureusement, elle n'a pas eu le temps. Il lui dit, je suis sûr qu'elle est en danger. Tu aurais dû appeler Mathilde. Mais qu'aurais-je pu faire de plus? Rien. Je vais aller aux nouvelles, dit-il. Il sort du salon. Arrivé chez Mathilde, on le conduit au salon, où elle le reçoit. Je viens prendre des nouvelles d'Adrienne, elle lui dit. Elle se repose, j'ai tout de suite appelé le médecin, et il lui a donné des calmants. Il trouve qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin de le repos. Puis-je la voir? Elle dort. Savez-vous ce qu'elle voulait me dire? Aucune idée. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'elle te fréquentait, cette petite. Il hausse les épaules et lui dit, c'est pas le moment de me faire une scène de jalousie. Elle fait un pas vers lui et lui demande, tu l'aimes? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que vous voyez, c'est bien pour quelque chose. Il a peur pour Adrienne. Et lui dit pour la protéger. Elle est venue me voir et c'est tout. Je ne sais même pas pourquoi. Je suis simplement venu, c'est pour avoir de ses nouvelles. C'est normal, puisqu'elle a eu un malaise chez moi. Tu vas pas me faire une scène pour ça? Non, bien sûr, je suis idiote, pardonne-moi. Mais c'est l'amour, je t'aime trop. Je me fais des idées. J'ai peur de te perdre. Si tu savais... J'espère que tu n'es pas fâchée contre moi. Non, bien sûr. Elle lui donne un baiser sur la joue. Viens. Faire l'amour dans la même maison où se trouve Adrienne, il ne peut pas. Non, je n'ai pas le temps. Elle l'embrasse. Tu es fâchée? Non, pas du tout, mais j'ai affaire. Elle lui caresse le cou. Mais qu'as-tu donc tant à faire? Des choses, je dois faire des choses pour ma sœur. Elle lui met la main sur la taille et descend. « Laisse-moi, je t'en prie. » Il lui retire la main. Elle soupire. « Bon, très bien, je te laisse, si tu as affaire. » Il lui dit, « Ne sois pas fâché. Non, allez, va. » Il lui donne un baiser et sort. Une heure plus tard, allongé sur son lit dans sa chambre, il réfléchit. Je détiens la lettre qui l'accuse. Mais là, Adrienne, nous avons chacun quelque chose qui fait que ni l'un ni l'autre ne peut agir. Que faire? Moi, je sais qu'elle tient Adrienne, mais elle ne sait pas que j'ai la lettre. Faut-il la lui dire? Si elle ne le sait pas, elle se croit libre de faire ce qu'elle veut d'Adrienne. Mais si elle le sait, elle se sentira piégée et ne pourra plus agir. Elle me donnera Adrienne à la place de la lettre. J'aurai Adrienne, mais pas sa fortune. Sauf si elle meurt. Le lendemain matin, il a sonné chez Mathilde. Le domestique, comme à l'accoutumée, l'a mené au salon. Deux minutes plus tard, elle entre par une autre porte. Elle est en déshabillé bleu et lui dit en s'approchant de lui: je suis heureuse que tu viennes de si bon matin, mon chéri. Je t'ai donc tant manqué. Elle veut l'embrasser, il se dégage. Je suis venue, c'est prendre des nouvelles d'Adrienne. Elle soupire et lui dit: elle va très bien. Elle se repose et dort. Le médecin dit qu'il ne faut pas de visite pour le moment. Jean-André lui demande: écoute Mathilde, je suis venu prendre Adrienne avec moi. Elle est surprise et lui demande: et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en sécurité avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit: j'aime mieux, c'est tout vous dire. Nous savons, Adrienne et moi, toutes les circonstances de la mort de votre mari, et peut-être aussi celle de son père. Mathilde devient rouge de fureur et lui demande: qu'est-ce que vous avez encore inventé? Je n'ai rien inventé. Je sais tout, et Adrienne aussi. C'est pour cela que je viens la prendre, parce qu'elle est en danger avec vous. Elle joue les épaules et lui demande: que savez-vous donc? Tout. Il sort de sa poche la lettre, retire la lettre de l'enveloppe. Et lui montre l'enveloppe. Vous reconnaissez cette écriture? Elle prend l'enveloppe, ne dit rien. Je vais vous lire la lettre. Et il la lit. Elle fait les 100 pas pendant qu'il lit. Une fois qu'il est fini, voilà, elle s'arrête de marcher, lui fait face et lui dit: et alors, ce n'est qu'une lettre? Cela ne prouve rien. Donnez-la-moi. Non, Mathilde. Elle déchire l'enveloppe qu'elle tenait à la main. S'approche de lui en tendant la main. Non, je veux Adrienne. Mathilde fait le geste de la lui prendre. Il se retire. Il s'avance. Il recule. Vous allez me donner cette lettre ? Non. Je veux Adrienne. Il met la lettre dans sa veste. Vous ne l'aurez pas. Vous êtes à moi ou à personne. Elle s'avance. Il recule. Et se trouve près de la cheminée. Prend le tisonnier. Et s'avance vers lui. Menaçante. Le tisonnier à l'air. Prêt à frapper. Elle fait le geste. Il se retire. Elle recommence. Il recule. Il cogne une chaise. La prend. Elle fait le geste de le frapper. Il se protège avec la chaise. Elle est en fureur, en sueur. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Lui ne cherche qu'à se défendre. Puis, elle donne des coups. Elle frappe, frappe, frappe. Ses coups ne touchent que la chaise. Et tout à coup, il lui lance la chaise.
Ce qui fait tomber le tisonnier.
Et la fait tomber à terre aussi. Assez joué, Mathilde. Je vais chercher Adrienne. Elle se redresse et lui crie. Non, la lettre. D'un geste, il la jette à terre. Et il sort du salon pour aller à l'étage. Les domestiques ont dû s'amuser de tout ce bruit. Madame, avec son amant, ça va mal. Il paraît qu'il aime aussi la petite. Il la veut, il les veut toutes les deux. Chaud lapin.
Il ouvre toutes les portes du premier étage. Et trouve Adrienne dans sa chambre, dans son lit, qui est endormi. Il s'approche du lit et se penche.
Adrienne, ma chérie, viens, je viens te chercher, réveille-toi. Il la secoue. Adrienne, c'est moi, nous partons. Il se réveille. C'est toi, Charles-André ? Oui, mon amour. Il donne un baiser sur la joue. Je viens te chercher. Lève-toi. Elle essaye de se soulever, n'y arrive pas. Elle lui dit, c'est les médicaments. Je vais te prendre dans mes bras. Il la prend dans ses bras. Que tu es légère, mon amour. Que tu es légère. Et ils sortent de la pièce, descendent des escaliers. Arrivé devant la porte palière, Mathilde est là. Elle lui dit, « Ne sortirez pas d'ici, tant que tu m'auras pas donné la lettre. Mathilde, laisse-moi passer. Non !» Elle lui montre un revolver qu'elle a à la main. Il pose Adrienne sur une chaise.
Il va vers Mathilde.
Sort la lettre, la lui tend. Le revolver. La lettre. Thank you. Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 16e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
CVRP, cinéma, vidéo, radioproduction, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.